Bonjour le monde aujourd'hui, Eric Manilakiza avec vous sur VOA Afrique depuis Washington DC. Bienvenue dans cette édition du mardi 2 avril 2024. Voici d'abord les principaux titres. Le plus jeune président du Sénégal prête serment devant ses pairs africains. Appel pressant pour l'élection présidentielle rapide au Mali.
Demandons aux autorités en place, au regard du vide juridique et institutionnel ainsi provoqué, de créer les conditions d'une concertation rapide et inclusive à l'effet d'organiser dans les meilleurs délais l'élection présidentielle.
Les partis politiques et la société civile se mobilisent donc, demandant une action immédiate. Le président égyptien Abdel Fattah al-Sissi prête serment ce mardi pour son troisième mandat depuis la nouvelle capitale en bordure du Caire. En RDC, Judith Suminwa-Tuluka, nommée première ministre, elle est la première femme à ce poste. Au Gabon, 7 mois après le coup d'État, des assises se tiennent à Libreville pour préparer des élections.
Il est grand temps que toutes les questions d'injustice, de frustration qui ont mis les Gabonais à se regarder en chien de faïence, qu'on pose ce dossier-là sur la table.
La Maison-Blanche juge très préoccupante les informations sur l'hôpital Al-Shifa de Gaza. Ne manque pas notre page sport ainsi que la Minute Écho. Pour l'instant, le journal. Pour la première fois dans l'histoire de la RDC, une femme, Judith Suminwa-Tuluka, a été nommée première ministre, donc chef du gouvernement, à la suite des élections de décembre. Eddie Isango.
Judith Suminwa-Tuluka, c'est son nom. L'annonce de sa nomination par le président Félix Tshisekedi afin de conduire l'exécutif congolais a été faite hier soir à la télévision nationale. Âgée d'une cinquantaine d'années, Judith Suminwa-Tuluka, membre de l'UDPS, parti du président Tshisekedi, est détentrice d'une maîtrise en économie. Elle était jusqu'à sa nomination ministre du Plan et aussi à la tête du projet du développement des 145 territoires que compte le pays. Elle succède à ses postes à Jean-Michel Samalou Kondé, qui conduisait le gouvernement depuis 2021. L'équipe gouvernementale qu'elle mettra en place devra faire face à la guerre qui sévit dans l'Est et à la situation socio-économique, avec notamment la baisse du pouvoir d'achat des Congolais suite à la dépréciation de la monnaie nationale, le franc congolais.
7 mois après le coup d'État militaire qui a mis fin à 55 ans de dynastie Bongo, le nouvel homme fort du Gabon, le général Brice Oligui Nguema, lance ce mardi un dialogue national inclusif d'un mois censé préparer des élections en 2025. Mais des voix s'élèvent pour fustiger un dialogue entre soi qui pavera une voie royale au général vers la présidentielle. La cérémonie d'ouverture de cette consultation de toutes les forces vives de la nation doit avoir lieu au Palais des Sports, au centre de Libreville. Mais les travaux des 580 participants nommés par M. Oligui débuteront demain mercredi au stade de l'amitié sino-gabonaise dans la banlieue de la capitale. Le plus jeune président du Sénégal et fervent panafricaniste de gauche, Bassirou Diomaye Faye, prend officiellement ses fonctions ce mardi après avoir remporté l'élection présidentielle avec la promesse de rupture avec le système en place. L'homme au visage juvénile symbolise une nouvelle ère de leadership politique. John Lyndon.
La cérémonie d'investiture est prévue en fin de matinée à Diamniadio, près de Dakar. Monsieur Faye succède pour 5 ans à Macky Sall, 62 ans, qui a dirigé le pays pendant 12 années et maintenu des relations fortes avec l'Occident. Plusieurs chefs d'État, dont le Nigérian Bola Ahmed Tinubu, président en exercice de la CDAO, le Mauritanien, le Gambien, le Guinéen et le Bissau-Guinéen sont annoncés. Le vice-président ivoirien, le premier ministre rwandais et le président de l'organe tenant lieu de parlement au Mali sont également attendus. La passation de pouvoir entre Macky Sall et Bassirou Faye aura lieu ensuite au palais présidentiel à Dakar. Monsieur Faye, jamais élu auparavant, devient à 44 ans le 5e président du Sénégal depuis l'indépendance en 1960. Il se trouve confronté à des défis aussi importants que les attentes placées en lui. Admirateur de l'ex-président américain Barack Obama, mais aussi du héros sud-africain de la lutte anti-apartheid, Nelson Mandela, Faye s'est dit panafricaniste de gauche et prône le rééquilibrage des partenariats internationaux. Bassirou Faye a a mentionné ses chantiers prioritaires tels que la réconciliation nationale, la baisse du coût de la vie et la lutte contre la corruption. Il devra en premier lieu nommer un gouvernement qui sera composé de personnes connues pour leurs compétences, leur intégrité et leur patriotisme, a-t-il indiqué. Mais ne disposant pas de majorité à l'Assemblée, Bassirou Faye devrait être contraint à former des alliances pour faire adopter des lois avant une éventuelle dissolution.
Le président égyptien Abdel Fattah al-Sissi prête serment ce mardi pour son troisième mandat consécutif. Cependant, son investiture survient dans un contexte marqué par une grave crise économique, alors que des experts décrivent catastrophique la situation des droits humains. Lionel Runanira Gaïma.
Abdel Fattah al-Sissi prête serment devant le Parlement dans la nouvelle capitale administrative à une cinquantaine de kilomètres à l'est du Caire, selon le quotidien d'État Al-Ahram. Sa prestation de serment intervient plus de trois mois après sa réélection, sans surprise, avec 89,6% des voix face à trois candidats peu connus du grand public. Al-Sissi entame son nouveau mandat alors que deux tiers de 106 millions d'habitants vivent en dessous ou juste au-dessus du seuil de pauvreté. L'Égypte a également vu la valeur de sa monnaie divisée par trois et sa dette multipliée par autant. En matière de droits humains, la situation reste catastrophique, dit Mohamed Lofti, directeur de la Commission égyptienne pour les droits et la liberté, une ONG basée au Caire. L'Égypte, classée 136e sur 142 pays au classement mondial de l'état du droit du World Justice Project, est l'un des pays recourant le plus à la peine de mort.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Le chef de la diplomatie américaine, Anthony Blinken, est en France pour évoquer le soutien à l'Ukraine et à la situation au Proche-Orient avec le président Emmanuel Macron, son homologue Stéphane Séjourné et avec le ministre français des Armées. Le secrétaire d'État américain accompagnera tout d'abord le ministre des Armées, Sébastien Lecornu, à Versailles, près de Paris, sur le site de Nexter, la filiale d'un groupe franco-allemand qui produit les canons César livrés à Kiev. La France, qui a organisé fin février un sommet pour provoquer un sursaut en faveur de l'Ukraine, a demandé à ses alliés de redoubler leurs efforts pour mettre en échec la Russie. Les soldats israéliens se sont retirés hier lundi du complexe hospitalier d'Al-Shifa à Gaza après deux semaines d'opération, laissant derrière eux d'immenses destructions et des cadavres, selon un médecin du plus grand hôpital du territoire palestinien, meurtri par près de six mois de guerre. Rosine Mounezer.
L'armée israélienne a annoncé la fin de ses opérations à Al-Shifa, lors desquelles elle a affirmé avoir tué plus de 200 terroristes et trouvé de nombreuses armes. Interrogé lundi soir sur ces frappes, le porte-parole de l'armée israélienne, le contre-amiral Daniel Hagari, a déclaré « Je ne commente pas sur les informations de la presse étrangère ». Téhéran a promis une réponse décisive. Bâtiments détruits, calcinés ou aplatis, rues jonchées de décombres et gros monticules de sable. Des images de l'AFP montrent un paysage de dévastation dans le complexe hospitalier d'Al-Shifa à Gaza, dans le nord, pris d'assaut le 18 mars par l'armée après avoir accusé le Hamas de s'en servir comme centre de commandement. Ce que dément le Hamas. La Maison-Blanche a jugé lundi que si elles étaient vérifiées, les informations sur les corps retrouvés à l'hôpital Al-Shifa étaient très préoccupantes. C'est très préoccupant si c'est vrai, a dit sa porte-parole Karine Jean-Pierre, en indiquant que Washington allait contacter le gouvernement israélien pour avoir plus d'informations après que des médecins et civils présents dans le complexe ont déclaré qu'au moins 20 corps avaient été retrouvés, dont certains semblaient s'être fait rouler dessus par des véhicules militaires.
Des collaborateurs d'une organisation non gouvernementale américaine qui livre de la nourriture dans la bande de Gaza menacée de famine ont été tués dans une frappe israélienne hier lundi, a annoncé son patron et fondateur, le cuisinier José Andrés. Ils ont été tués alors qu'ils travaillaient pour soutenir notre travail humanitaire de livraison de nourriture à Gaza, selon un communiqué distinct de l'organisation dénonçant une tragédie. La Cour suprême de Floride a validé hier l'inscription sur les bulletins de vote aux élections américaines de novembre d'un amendement garantissant le droit à l'avortement de plus en plus menacé dans les États dirigés par les républicains. Donald Trump a déposé hier une garantie de 175 millions de dollars devant la justice américaine pour éviter des saisies judiciaires sur son patrimoine après avoir été condamné à 454 millions de dollars d'amende pour fraude financière selon un document judiciaire rendu public. Vous suivez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voafrique.com. Nous retrouvons à présent Nanit Talani pour nous présenter sa Minute Éco.
La baisse de la pluviométrie et le fort ensoleillement dans la plupart des principales régions cacaoyères de Côte d'Ivoire la semaine dernière pourrait nuire à la mi-campagne d'avril à septembre, ont déclaré les agriculteurs lundi. Les cultivateurs se disent préoccupés par l'impact de ces conditions météorologiques sur les petites gousses et les chirelles, jeunes fruits du cacaoyer, qui doivent être récoltés à partir de mi-août. En Tunisie, les autorités ont annoncé une reprise cette semaine du raffinage du sucre brut et la distribution de stocks. Le gouvernement centralise les achats de denrées de base subventionnées, mais un manque de liquidité dans les caisses publiques provoque régulièrement des pénuries de sucre, semoule, farine, huile de cuisson ou lait. Selon les économistes, l'État, lourdement endetté à environ 80% du PIB, privilégie le remboursement de ses dettes au détriment des approvisionnements de première nécessité qu'il se procure au compte-gouttes. Pour terminer, les prévisions d'inflation en Égypte devraient rester élevées à court terme, avec une inflation moyenne de 25,5% pour le prochain exercice budgétaire, estime le FMI. Le Caire doit remplacer les subventions non ciblées sur les carburants par des dépenses sociales ciblées.
Et Yacouba Ouédraogo est avec nous dans sa page sport. Bonjour Yacouba.
Bonjour Eric, bonjour à tous.
Semaine décisive pour 4 sélections africaines qui jouent leur qualification pour les JO de Paris. Nous parlons bel et bien du football féminin.
Oui, 2 oppositions, 2 places à prendre à l'issue de la double confrontation entre l'Afrique du Sud et le Nigeria d'une part et le Maroc et la Zambie d'autre part. Les matchs allés auront lieu ce 5 avril et ce retour, le 9, Amin Birouk nous fait le point.
A priori, tous les regards seront focalisés sur la double confrontation entre l'Afrique du Sud et le Nigeria, entre les champions d'Afrique en titre et l'équipe qui a très longtemps dominé le football africain sur le plan féminin et qui a réussi un excellent mondial. Il faut dire aussi que les Sud-Africaines avaient été excellentes lors de la dernière Coupe du Monde puisque les deux pays avaient réussi à s'extirper du premier tour de phase de groupe. A priori, 2 confrontations intéressantes. La force de frappe de l'équipe sud-africaine réside dans son collectif avec une ossature d'Emma Mélodie Sundowns du côté du Nigeria, Azitat Oshuala qui évolue au Barça. Quelques individualités en Europe pourraient faire la décision. Dans l'autre confrontation, il y a la Zambie de Barbara Banda qui sera opposé à l'équipe du Maroc, encore des équipes qui étaient lors de la dernière Coupe du Monde présentes. Les Zambiennes ont l'ascendant psychologique sur les Marocaines, notamment lors des confrontations en amicales qui avaient eu lieu au mois de septembre dernier avec 2 victoires de la Zambie, et notamment la dernière en date sur le score de 6-2 qui avait coûté sa place à Reynald Pedros, remplacé par Jorge Vilda, l'ex-entraîneur de l'équipe d'Espagne champion du monde. Vilda qui compte sur l'expérience du bloc de l'AS FAR, plus quelques joueuses évoluées en Europe pour pouvoir, bien évidemment, permettre au Maroc d'être, pour la première fois de son histoire, qualifié lors des JO. Le match aller Andola risque d'être déterminant aux Marocaines de résister aux assauts adverses, de jouer bloc bas, de ne pas laisser d'espace dans le dos pour pouvoir, bien évidemment, réussir à amener un bon résultat, histoire peut-être de forcer la décision à Rabat 5 jours plus tard. En tout cas, ce sont les 2 plus belles empoignades de ces éliminatoires des JO entre les 4 meilleures nations sur le plan féminin, celles qui travaillent le mieux en Afrique. Les 2 équipes qui se qualifieront devront après faire honneur à l'Afrique, même si le tirage au sort les a mis dans des groupes très compliqués, avec très peu de chances de se qualifier pour la suite de la compétition.
Amin Birouk, notre consultant sportif à Casablanca, au Maroc.
L'actualité sportive signée Yacouba Ouédraogo.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous êtes à l'écoute du Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Eric Manirakiza de retour avec vous pour aborder les dossiers du jour. Au Mali, une vingtaine de partis politiques et d'organisations de la société civile se sont réunis hier pour signer un communiqué conjoint appelant les autorités militaires à organiser rapidement les élections présidentielles. Le réseau des défenseurs des droits humains au Mali, regroupant une cinquantaine d'organisations locales, a également lancé cet appel à la junte. Plus de détails avec notre correspondant Mohamed Danyoko.
L'ADEMA PSJ, le parti ELEMA de l'ancien Premier ministre Moussa Mara, le Rassemblement pour le Mali de l'ancien président Feu Ibrahim Boubacar Keïta et plusieurs autres partis et organisations ont apposé leur signature sur le communiqué constatant la fin de la transition et demandant l'organisation dans les brefs délais de la présidentielle. Mahamadou Konaté, M5RFP.
Rappelons que c'était la prolongation d'un délai initial d'un an et six mois. En conséquence, réunis ce jour 31 mars 2024, demandons aux autorités en place, au regard du vide juridique et institutionnel ainsi provoqué, de créer les conditions d'une concertation rapide et inclusive pour la mise en place d'une architecture institutionnelle à l'effet d'organiser dans les meilleurs délais l'élection présidentielle.
Parlant de brefs délais, les acteurs politiques estiment que si le dialogue qu'ils réclament était instauré, la présidentielle pourrait se tenir dans les 3 à 4 mois à venir. Écoutons à ce sujet le docteur Modibo Soumaré, président de l'AFD.
Quand on lit très rapidement la loi fondamentale, on se rend compte que c'est un délai de 3 à 4 mois qui est dans la loi fondamentale. Donc il est important aujourd'hui qu'un dialogue rapide de haut niveau soit instauré pour aller justement vers cette élection présidentielle.
Si le ministère de l'administration territoriale avait parlé de léger report sans plus de précision, il est temps, selon les membres de ce nouveau regroupement, de sortir de ce qu'ils appellent un flou. Yaya Sangaré, secrétaire général ADEMA PSJ.
Nous disons que ça fait deux fois qu'il y a une prolongation tacite de la transition. Et nous ne sommes pas contre la prolongation, mais il faudrait que ça se fasse dans les règles de l'art. Nous nous trouvons dans une situation aujourd'hui assez floue. Nous ne comprenons pas qu'un décret qui a été pris sur la base d'une charte et que ce décret arrive à terme et qu'on ne fasse pas d'annonce.
Si rien n'est fait, selon le constat du comité de suivi qui sera mis en place, le regroupement promet d'user de toutes les voies légales et légitimes pour le retour de l'ordre constitutionnel, gage, selon lui, de la stabilité et du développement durable. Les autorités, elles, gardent toujours le silence. Mohamed Danyoko pour VOA Afrique, Bamako.
VOA Afrique, 24 heures sur 24, à Bamako, au Mali, sur 102 FM.
Au Gabon, un dialogue national s'ouvre ce mardi à Libreville, réunissant plus de 500 délégués venus de tout le pays et de sa diaspora. Ces forces vives de la nation devront aborder des questions cruciales telles que l'élaboration d'une nouvelle constitution, d'un nouveau code électoral et d'un code de nationalité. Cependant, bien que voulu sans tabou par les militaires au pouvoir, ce rendez-vous laisse de côté la question des réparations réclamées par de nombreuses victimes des violences politiques perpétrées par le régime déchu. De Libreville, les explications de notre correspondant Ismaël Obiangze.
Il y a un risque d'un véritable dialogue de sourds. La détresse des familles des victimes des violences post-électorales de ces 20 dernières années au Gabon est quelque peu étouffée par l'euphorie des soutiens de la transition militaire. Simplice Nvéa Sekou est délégué de la plateforme pour la Renaissance nationale, un mouvement pro-CTRI qui vient de faire sa première sortie pour encourager le dialogue.
Nous nous réunissons près de 40 000 personnes. Le but, c'est de dire merci au président Brice Clotaire Oligui Nguema d'avoir délivré le Gabon. Nous avons passé près de 50 ans dans des moments compliqués. Je ne souhaite pas revenir sur ça. Le plus important, c'est que nous sommes sortis d'Égypte. Le président Brice Clotaire Oligui Nguema fait un ensemble d'actions qui sont intéressantes. Donc nous, les associations, la diaspora et tout le monde, nous souhaitons dire merci.
Alexandre Bien a perdu son fils tué par balle lors des violences qui ont suivi la réélection du président Bongo en 2016. Il est intransigeant sur l'urgence des réparations.
Il est grand temps que toutes les questions d'injustice, de frustration qui ont mis les Gabonais à se regarder en chien de faïence, à emmagasiner des tonnes de rancœur. On pose ce dossier-là sur la table. Notamment les meurtres. Les meurtres de 1993, de 2009 à 2016.
En sitting devant la cathédrale Sainte-Marie de Libreville, le collectif des victimes des violences post-électorales sollicite la médiation du président désigné du dialogue, Mgr Iba Aba, pour ouvrir ce dossier. Nguemondo, coordonnateur de l'association.
Lorsqu'on a initié le dialogue, nous pensions que c'était le moment opportun, n'est-ce pas, d'aborder cette question. Et malheureusement, parmi les thématiques du dialogue, il n'y a pas l'approche justice, vérité, réconciliation et puis réparation. Et là, nous sommes à la cathédrale Sainte-Marie, parce que c'est ici que réside le président du dialogue. Nous sommes là pour l'interpeller, que c'est vrai, nous ne serons pas au dialogue, mais pensez à cette problématique.
Cette grand-messe focalise l'attention de tous, notamment des missions diplomatiques accréditées au Gabon. Lors d'une audience dimanche à Libreville avec le chef de la transition Brice Clotaire-Oligui Nguema, les diplomates ont exprimé le vœu de voir l'ensemble des couches sociales du pays représentées à ce rendez-vous, s'exprimer et aboutir à des conclusions conformes aux aspirations du peuple gabonais. Ismaël Obianze pour VOA Afrique, Libreville.
Le Sahel, une région à la croisée des chemins. Focus Sahel, votre nouvelle émission sur VOA Afrique.
Crise sécuritaire, montée de l'extrémisme et déplacement de populations et influences étrangères, VOA Afrique braque ses projecteurs sur la bande sahélo-saharienne pour vous aider à comprendre les enjeux qui sévissent dans cette région et les événements qui rythment la vie de ces pays.
Retrouvez nos équipes à Washington et nos correspondants sur le terrain pour des reportages, des analyses et des interviews.
Pour tout comprendre sur le Sahel, rendez-vous tous les mardis à 18h en temps universel sur VOA Afrique, voafrique.com et toutes nos plateformes digitales.
Les chrétiens du monde entier ont observé la célébration de Pâques ce dimanche 31 mars 2024 dans l'est de la RDC où les combats entre l'armée congolaise et les rebelles du M23 se poursuivent. Les personnes déplacées vivant dans les camps ont eu du mal à célébrer la fête en raison de difficultés socio-économiques et des manques d'assistance. Davantage avec Zanem Neti Zaidi.
Au camp des déplacés de Kanyaruchinya au nord de la ville de Goma, les temps n'étaient pas à la fête les jours des Pâques. Une fête souvent appréciée par les enfants qui reçoivent souvent des cadeaux et mangent à leur faim. Mais cette année, le décor est complètement différent. Aline Ouineza, une jeune fille déplacée de 12 ans, a déclaré qu'elle était triste d'avoir passé Pâques dans l'austérité.
Aujourd'hui, nous n'avons pas fait la fête parce que nous n'avons pas de vêtements, de chaussures ou même de nourriture. Avant, quand nous étions à la maison, nos parents achetaient tout ce dont nous avons besoin et nous mangeons très bien.
La situation était similaire dans la famille de Mukeshimana qui n'a pas trouvé assez de nourriture. Cette femme déplacée a exprimé son souhait de quitter son camp pour retourner dans sa communauté.
La fête n'a pas eu lieu ici car nous sommes dans une situation impossible. Les enfants ont passé une journée sans manger. Si nous étions dans nos villages, nous mangerions très bien. Nous voulons retourner dans nos villages pour sortir de cette mauvaise situation.
Les commerçants qui vendent leurs articles dans les camps de déplacés ont constaté le manque d'intérêt pour l'achat des vêtements avant et pendant la fête de Pâques. Jean-Paul, vendeur de vêtements dans les camps de Kanyaruchinya, s'est dit déçu de l'absence des clients.
Nous n'avons pas eu des clients parce que les personnes déplacées disent qu'elles n'ont pas d'argent. Ces jours-ci, ils ne reçoivent pas d'aide.
Cette année, contrairement aux années précédentes, les personnes déplacées disent être livrées à elles-mêmes. Zanem Neti Zaidi pour VOA Afrique, Goma.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com. À tout de suite.
Le candidat républicain présumé à l'élection présidentielle de novembre, Donald Trump, se prépare à organiser une collecte de fonds en Floride pour compenser le déficit de trésorerie le séparant de son adversaire démocrate, le président Joe Biden, qui brigue un second mandat. Veronica Balderas-Iglesias a demandé à plusieurs électeurs américains comment ils voyaient la course à la collecte de fonds. Le récit est signé Yacouba Ouedraogo.
Le candidat républicain à l'élection présidentielle, Donald Trump, vise un objectif de 33 millions de dollars lors d'une collecte de fonds à Palm Beach, en Floride, le 6 avril. Jusqu'à présent, les ressources financières de la campagne de M. Trump ont été inférieures à celles de son rival politique, le président Joe Biden. Rien que jeudi dernier, aux côtés de ses prédécesseurs Barack Obama et Bill Clinton, la campagne de Joe Biden a récolté 26 millions de dollars pour sa réélection lors d'un événement au Radio City Music Hall de New York. Les électeurs américains interrogés par la VOA le dimanche de Pâques à Washington ont donné leurs avis sur la course financière des candidats. Bill, qui n'a pas communiqué son nom de famille, est un électeur américain.
Je pense que l'argent est nécessaire pour faire des choses telles que la publicité, les déplacements du personnel et autres. Je ne sais pas très bien où va l'argent.
Jackson Tinker, résident de Washington, D.C.
Je pense que trop d'argent est déversé dans nos élections, d'un côté comme de l'autre. Je pense qu'il faut plafonner le montant des dépenses électorales.
Selon cette étudiante, Dana Bog, les messages et les stratégies des candidats doivent être améliorés.
Je ne vois pas l'importance de la façon dont les gens mènent leur campagne en ce moment. Les actions seraient certainement plus importantes pour moi que n'importe quelle campagne.
Lors de sa visite à New York la semaine dernière, Donald Trump a insisté sur l'importance de la lutte contre la criminalité. Il devrait tenir des rassemblements dans les prochains jours dans le Michigan et le Wisconsin. Joe Biden a déclaré à la presse qu'il se rendrait à Baltimore cette semaine. Il a été contraint de se détourner de la campagne électorale pour se consacrer aux efforts de récupération dans le Maryland après qu'un cargo a heurté et fait écrouler le pont Francis Scott Key mardi. Le gouverneur du Maryland, West Moore, a participé dimanche à l'émission State of Union de CNN et a qualifié l'accident de catastrophe économique nationale car les chaînes d'approvisionnement pourraient être perturbées.
La raison pour laquelle nous avons besoin que les gens agissent de manière bipartisane et rapide n'est pas que nous avons besoin que vous fassiez une faveur au Maryland. Nous devons nous assurer que nous agissons rapidement pour relancer l'économie américaine, car le port de Baltimore joue un rôle essentiel dans notre croissance économique.
Une aide immédiate de 60 millions de dollars a été approuvée par l'administration Biden après l'effondrement du pont et une grande partie des coûts de reconstruction devraient également être financés par le gouvernement fédéral.
Le monde aujourd'hui, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Eric Manilakiza à ce micro, à la console Nachwan Kale. Lionel Lonamina Gahima a assuré la production et la réalisation. Un grand merci adressé à la rédaction et à toute l'équipe de production. Rendez-vous sur votre site internet voafrique.com et nos pages Facebook, YouTube, la plateforme X et Instagram pour un suivi de l'actualité 24 heures sur 24. Je vous souhaite une excellente journée à l'écoute de nos programmes. Et à la prochaine.
Le Monde Aujourd'hui, diffusé partout en Afrique francophone. À Dakar, sur 102 FM. Top Congo, Kinshasa. Nostalgie FM, Ouagadougou. 99.8 FM, Korogo, Côte d'Ivoire. Et bien d'autres encore.
sans oublier sur Ondes Courtes. Le Monde Aujourd'hui sur VOA Afrique.